poudre vanille,
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission de Boule Vanille, votre rendez-vous estival sur Canal B du lundi au vendredi, 17h-18h et rediffusion du mardi au samedi matin de 8h à 9h. Une émission que je vous propose et qui vous permettra de retrouver un troisième épisode des Invisibles du cinéma proposé par Soisig Le Bay. Et puis vous retrouverez aussi ces histoires de la Northern Soul part 3 et pour terminer et tout à l'heure, les morceaux de choix, chronique proposée par Renan Chaplin qui a rencontré des mélomanes et qui nous disent tout sur la chanson, le disque qui les a fait chavirer. Mais on va commencer dans un instant avec cette suite des Invisibles du cinéma, 5 professionnels du cinéma qui nous disent tout sur leur métier. Vous retrouverez ainsi dans un instant le scénariste Rémi Giordano qui nous dira pourquoi il s'est intéressé au personnage d'Henri III pour écrire un scénario. Et puis on retrouvera Colette Caisson, productrice, Frédéric Legal, repéreur, Laura Bucher, décoratrice et Sarah Turoche, monteuse. Bonne émission.
Moi, ce qui m'a intrigué dans l'histoire d'Henri III, c'est que il se trouve que Henri III avait une cour de mignons qu'il appelait ses mignons, donc une cour de jeunes hommes dévoués à tous ses désirs, à qui il écrivait des lettres enflammées, mais que tous les historiens ont gommé l'éventuel aspect, l'aspect homosexuel du personnage, vraiment en disant non, c'est les pamphlétistes de l'époque qui ont décidé qu'il était homosexuel pour diminuer le fait qu'il était bon ou mauvais roi. Ça, après, on peut en juger comme on veut. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cette idée qu'on avait invisibilisé ça ou qu'on s'en était servi pour sa décharge. Donc moi, j'ai tranché. Pour moi, Henri III était homosexuel et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment, à cette époque, un roi vivait ces amours-là aux yeux de tous. Effectivement critiqué par les pamphlétistes, les journalistes de l'époque, mais au final comment ça se passait concrètement, ces hommes qui partageaient sa couche aux yeux, aux vues de tous, et surtout ces jeunes hommes qui l'accompagnaient étaient liés à des luttes de pouvoir, participaient à la politique, donc ces relations étaient très importantes et intimement pour lui et aussi dans ce qui a été son gouvernement de l'époque, ça a été gommé par l'histoire. Et c'est ça qui m'intéressait, et c'est ça que j'essaye de mettre en lumière dans mon projet. Après, j'essaierai de faire quelque chose de contemporain, parce que c'est plus compliqué. Ça coûte plus d'argent, les costumes, etc. sont plus chers, donc ça représente beaucoup plus pour le budget. Ça rend moins libre à d'autres endroits, en fait. Un film étant coûtant de l'argent, si on met de l'argent dans les costumes, on en a peut-être un peu moins pour faire plus de prises, pour certains plans, on a moins de jours de tournage. Ce que je conseille à des scénaristes qui même n'ont pas envie de réaliser, c'est au moins d'essayer pour confronter leur écriture à la réalité d'un tournage. Parce que même moi, avant de m'y mettre personnellement, même si j'ai discuté avec beaucoup de réalisateurs, que je les ai vus faire leurs films, on ne se rend pas vraiment compte quand on écrit et qu'on n'a pas vu ce qu'on a écrit ou qu'on n'a pas essayé nous de transformer en image, à quel point en fait parfois on fantasme vraiment sur le papier et que dans la réalité ça devient très compliqué, quoi. Même pour des situations très simples, moi je trouve que c'est très difficile de faire parler deux personnes dans une pièce sans que ça soit, ça peut être rythmé au scénario, mais il faut que ça soit aussi rythmé à l'image, et c'est vraiment des enjeux qui sont bons d'avoir en tête quand on écrit finalement.
Il paraît que Woody Allen se sort très bien pour les scènes de table notamment et des gens qui parlent entre eux.
Ah oui, non mais Woody Allen c'est un plaisir de dialogue. Il a trouvé un moyen d'adapter sa mise en scène qui est assez simple au verbe, au fait que ces personnages et ces films sont très bavards. Ouais. Moi je sais que c'est dur de filmer, d'avoir des scènes où les gens, où il y a beaucoup de gens qui parlent. Donc j'essaie de faire des scènes où les gens se parlent intimement. Et d'ailleurs dans la vie, moi j'aime bien parler avec les gens face à face. Je suis moins à l'aise de quand il y a du monde.
Après Rémi Giordano, c'est au tour de Colette Caisson qui répond aux questions de Sosie Globay et qui nous dit qui finance les films et comment parvient-on à convaincre ces financeurs.
Ça, c'est très compliqué de répondre en quelques mots, mais c'est un spectre très large et ça dépend des projets, et ça dépend des univers, etc. Il y a des chaînes de télévision, il y a des distributeurs, il y a évidemment le CNC qui est central dans le financement du cinéma, il y a les très précieuses collectivités territoriales qui sont souvent les régions qui accompagnent les projets et qui sont équipées notamment en Bretagne de super équipes pour vraiment déterminer quels sont les bons dossiers. Et donc voilà, après l'outil principal c'est quoi ? C'est le profil du réal. Donc son parcours jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a fait avant, quels ont été ses films, etc. Deuxièmement, le dossier. Le dossier, c'est un scénario, c'est un traitement pour les documentaires. C'est parfois et de plus en plus montrer des images, notamment en documentaire, montrer un premier tournage, des premiers rushs assemblés. En animation, c'est souvent des essais ou un bout d'animatique. Donc c'est déjà montrer un petit peu un savoir-faire sur le projet. Faire écouter des maquettes de musique, des recherches concrètes parfois avec des images et des sons. Et donc la qualité de ce dossier et de ces recherches, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'investissements, très souvent déjà des réalisateurs et du producteur à fond perdu entre guillemets, c'est-à-dire on passe beaucoup de temps et pour arriver à un dossier qui est très mûr, qui est très mature et qui est capable de convaincre. Mais on garde l'énergie de faire ça parce qu'on est ensemble, on en discute, on entretient à deux comme ça ou à trois parfois avec un scénariste, un co-auteur, le désir d'avancer, le plaisir de trouver petit à petit une forme qui se trouve, qui s'élabore et qui devient de plus en plus évidente. Donc voilà, et c'est la capacité, on passe par l'écrit, moi j'adore ça, c'est la capacité par un dossier écrit à transmettre ce désir et à donner envie de voir, enfin donner l'impression qu'on a déjà des images et des sons dans la tête quoi.
Libre Garance, on l'a vu, il est sorti en salle, mais il était aussi à Travelling l'année dernière. Il a eu un beau succès. Je ne sais pas si c'est un gros succès commercial, mais un bon succès d'estime en tout cas, et beaucoup de monde l'a vu. Est-ce que pour vous, c'est plus facile maintenant, ou bien c'est toujours la même bagarre à recommencer pour d'autres projets ?
Alors, c'est évident que la production, c'est un métier où c'est compliqué de démarrer, parce que quand on démarre, on ouvre un petit bureau, on prend un ordinateur, souvent on n'ouvre pas un bureau d'ailleurs, on ouvre un ordinateur plutôt, et on commence par rien finalement. Donc effectivement, quand on a un petit peu ce qu'on appelle un catalogue en production, c'est-à-dire une filmographie de films qu'on a produits et qui ont eu ici ou là des reconnaissances d'une certaine diffusion, c'est rassurant, notamment pour les financeurs, c'est rassurant pour les réalisateurs qui se disent bon, ok, elle a déjà produit ça, donc ça, elle doit savoir faire, etc. Bon, donc d'une certaine façon, c'est mieux de savoir, mais en même temps, c'est toujours un recommencement parce que un nouveau projet, et puis ça dépend des producteurs, certains ont tendance à toujours un peu produire le même genre de projet, d'autres sont plus aventureux. Moi ça me tente toujours parfois quand le projet me plaît, mais que c'est le type de projet que j'ai jamais produit, je trouve ça assez passionnant parce que on dit toujours de nos métiers que c'est une industrie de prototype. Donc effectivement, il n'y a pas deux projets qu'on produit de la même façon ou qu'on écrit de la même façon. Donc c'est une contrainte parce qu'effectivement, à chaque fois, on repart de zéro. On n'a pas forcément de référence sur des budgets ou de référence sur des façons de l'écrire, de le produire, de le monter. Mais c'est passionnant parce que ça se réinvente, ça se discute, ça se pense à chaque fois. Ça aide, mais pas tant que ça.
À perte de vue, donc c'est le nom de votre société, est-ce que vous diriez que vous avez une ligne éditoriale ?
On m'a souvent dit, et j'entends plutôt ça, l'art et la politique, dans la façon aussi dont ces notions-là peuvent être très, très liées, en tout cas, le sens politique, pas au sens partisan, pas au sens militant, mais au sens politique au plus profond du terme. J'aime les films qui ont du sens et qui ont une écriture aussi un peu élaborée. Ça m'intéresse vraiment, là, cette question de comment on raconte une histoire, etc. L'autre caractéristique, c'est que je produis que des unitaires, parce que j'ai une passion pour l'unitaire, le début, le milieu et la fin d'une histoire. J'adore ça. Vous vous occupez de livres par ailleurs. Il n'y a rien de plus génial quand on a aimé un film ou un livre que de le tuer qui se termine. Et puis qu'il y ait ce moment-là, après, avec soit d'autres pour en parler, soit dans la solitude, de pouvoir se dire voilà, ça se boucle. Et maintenant, moi, je suis seule avec cette histoire qu'on vient de me raconter et je peux en faire quelque chose. Donc voilà, je produis des unitaires. Et voilà. Et puis après, je dirais. J'essaie d'avoir une histoire de fidélité avec des auteurs que j'accompagne parce que quand on a fait un film, puis un deuxième film, puis un troisième film, comme c'était le cas avec Lisa Diaz pour Libre Garance, on a eu le temps de se connaître, de connaître ses points forts, ses défauts, réalisatrice comme productrice. Hein. Ça, c'est bien parce qu'on avance plus vite et on se comprend, on essaie de respecter.
On a confiance aussi.
On a confiance, on élabore de la confiance. Là, je suis en train de faire un deuxième long métrage documentaire avec Vincent Lapisse, un réalisateur avec lequel dont j'avais produit Le Dernier Continent. On travaille sur un projet autour des jardins d'Aubervilliers, qui sont au cœur de gros soucis autour du Grand Paris Aménagement et des Jeux Olympiques de Paris 2024. La confiance aidant, la collaboration se poursuivant, comme avec Isabelle Reb qui a réalisé Pollock et Pollock par exemple. Bon voilà, on travaille dans la confiance et voilà, il n'y a pas trop de questions de méfiance ou de forme, etc. On essaie d'être au cœur des projets, d'être vraiment dans l'intérêt des projets qu'on porte.
Dans la troisième partie des Invisibles du cinéma, vous entendiez à l'instant la productrice Colette Caisson. Poursuivons avec le repéreur Frédéric Le Gall qui nous dit à quoi ça ressemble un repérage compliqué.
Un repérage compliqué, je pense notamment à un film qui est sorti sur les écrans il y a 2 ans à peu près, qui s'appelait Goliath, de Frédéric Tellier, et qui traitait du glyphosate. Et en gros, le décor principal du film, c'était la maison des personnages principaux. Et dans le scénar, en gros, c'était une maison entourée à 360 degrés par des champs de maïs. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est une femme qui attaque en justice un équivalent de Monsanto de fiction, parce que son mari est décédé des suites d'un cancer suite à une exposition à des glyphosates. Intimement convaincu même que c'est ça. Et donc, fallait trouver, et d'ailleurs, le réalisateur nous avait envoyé là aussi une référence, qui était une image des moissons du ciel de Terrence Malick, donc qui est dans la campagne américaine, donc avec une belle maison, mais vraiment entouré à 360 degrés par des champs de maïs, mais à perte de vue à l'horizon, quoi. Donc déjà, on lui a dit, écoutez, on est plutôt dans un pays de bocage, en Bretagne. C'est pas évident qu'on trouve. D'ailleurs, on n'a pas trouvé. Hein. Mais on a quand même fini par trouver une maison qui était quand même... où il y avait deux côtés de la maison, enfin un pignon et l'arrière de la maison qui était collé à des champs de maïs. Hein. Et d'ailleurs, les propriétaires ont accepté le tournage parce que c'était quelque part leur histoire. Ils avaient un peu construit une espèce d'oasis contre le champ de maïs. Donc ça, une fois qu'on a trouvé cette maison-là, là où c'est devenu très compliqué, c'est qu'il fallait trouver le propriétaire du champ de maïs et qu'il soit d'accord qu'on tourne dans son champ. Alors que très concrètement, dans le scénario, si on résume l'histoire, il assassine son voisin quand même quelque part, donc c'était quand même pas évident. Donc ça a été très 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 compliqué. Il a fallu beaucoup beaucoup discuter, se faire jeter de pas mal de fermes pour avant d'en trouver une, et on en a trouvé une qui était d'accord avec le projet de base, c'est-à-dire qu'il était anti-glyphosate et qu'il a eu l'impression d'avoir perdu sa vie et d'avoir perdu sa santé à cause de tout ce qu'il avait bouffé de saloperie dans toute sa carrière professionnelle, quoi. Ça, c'est un repérage pas simple.
Et un repérage, au contraire, un repérage où vous avez fait de belles rencontres, où vous avez trouvé des lieux magnifiques que vous n'auriez pas soupçonnés ?
Ça, je dirais que ça arrive. Enfin, des lieux magnifiques et des gens magnifiques, il y en a, on en trouve tout le temps, hein, partout. Enfin, et c'est souvent d'ailleurs en se perdant, en allant au bout d'un chemin, mais complètement par hasard. Parce que souvent, des fois, quand j'arrive chez les gens, ils me disent mais comment vous êtes arrivé là, quoi ? Et souvent, c'est un peu au pif, à l'instinct. Enfin, après, on a un peu des réflexes et des habitudes maintenant, mais quand même, il y a une vraie part de chance, quoi. Mais par contre, il y a des gens et des lieux incroyables, absolument. Ouais, c'est vraiment pas rare. Et le nombre de fois où ça m'est arrivé de pousser une porte et de faire waouh, en n'ayant vraiment pas du tout idée de sur quoi j'allais tomber, hein. Et des fois avec des rencontres, que ça soit architectural ou humaine, avec des gens aussi incroyables, où vous restez 3 heures autour d'un café à discuter parce que vous êtes tombé dans un endroit absolument incroyable, quoi. J'ai toujours un œil qui traîne quand je suis en voiture, à pied, n'importe quand, en famille. Moi, je suis toujours en repérage parce que je ne sais jamais ce qu'on va me demander, et ça peut être vraiment absolument n'importe quoi. Donc, je suis tout le temps en train d'avoir. Moi, j'ai toujours un œil qui traîne et un téléphone pour prendre un point, une coordonnée GPS de là où je suis au moment où j'ai ça qui me passe devant les yeux. Mais après les réflexes alors moi je travaille beaucoup avec les cartes, pas tellement avec internet, parce que internet on trouve beaucoup de choses et il y a quand même beaucoup de déchets. La carte GN c'est beaucoup plus précis, vous voyez tous les bâtiments, vous savez quel type d'environnement il y a autour, vous savez si c'est isolé ou s'il y a d'autres maisons, donc ça c'est assez précis. Donc là encore en ce moment je suis en train de chercher une maison à l'abandon au milieu d'une forêt, je bosse que à la carte, quoi. Et ça marche beaucoup mieux que Google Maps, hein. Il n'y a pas beaucoup de maisons en milieu de forêt, déjà c'est quand même très peu construit, donc abandonné il y en a vraiment encore moins, mais oui il y en a encore quelques-unes, ouais, j'en ai trouvé une notamment qui est à l'abandon depuis 40 ans et qui est vraiment dans son jus avec qui est encore meublée, c'est pas une ruine non plus, quoi. Mais elle est vraiment dans son jus et c'est pour un film d'époque, donc je pense que c'est là-bas qu'on va tourner, ouais.
Vous voulez dire où c'est ou pas?
Oui, c'est sur la commune de Saint-Germain-du-Pinel, donc c'est à côté de Vitré, et c'est au milieu d'un bois, et ça c'est là, je l'ai repéré sur une carte, quoi, sur une carte hygiène. J'en avais vu, je sais pas, 25 ou 30 avant, mais la majorité c'était des cabanons, ou des petits relais de chasse, c'était pas des maisons, quoi, c'était juste des cabanes au bord d'un petit étang ou au milieu des bois, quoi, mais ouais, c'est une des seules que j'ai vu qui était vraiment une vraie maison, avec une cuisine, des chambres, un salon, voilà.
Est-ce qu'il vous arrive d'influencer le réalisateur, de le faire changer d'avis, et après la lecture du scénario, de se dire « Ouais, c'est ça qu'il veut, mais en fait, peut-être ça pourrait être autre chose ?»
Ça peut arriver parce que justement, quand il y a un truc suffisamment vague et suffisamment... où on en présente une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et puis en fait, il n'y a pas d'évidence, il n'y a rien qui plaît à tout le monde, et vous faites un contre-pied complet et vous envoyez carrément autre chose, et là souvent ça marche bizarrement, mais je pense que c'est un peu comme en casting, en fait, ce que je disais tout à l'heure sur les directeurs de casting. Il y a des réels, souvent ils écrivent des scénarios pour des comédiens, et des fois les comédiens soit ils sont pas dispo, soit ils veulent pas, soit on n'a pas l'argent pour se les payer, enfin voilà, et donc faut faire le deuil de ce qu'on a imaginé pour trouver ce qu'on va pouvoir faire et avoir envie de le faire. Et ben les décors c'est un peu pareil, des fois il y a des je me souviens d'une fois sur un film notamment où il y avait quelqu'un qui avait tellement bien décrit son décor principal, qui était une maison, parce qu'il la connaissait, c'était sa maison de famille en fait, hein. Mais sauf que cette maison n'existait plus, elle était plus disponible, ou elle n'existait plus telle qu'elle était, mais du coup il n'arrivait pas à se détacher de ce modèle qu'il avait en tête, hein, et du coup on est parti sur carrément autre chose, et je me rappelle je lui avais dit mais t'es dans la même situation que quelqu'un qui est amoureux d'une femme mais qui l'a quittée et qui cherche à retrouver la même, et forcément ça marche pas, quoi. Là c'est un peu pareil, quand on a des fois faut ouvrir son champ des possibles, quoi, et aller ailleurs que là où on aurait imaginé aller, quoi.
Est-ce que vous pensez que vous faites vraiment partie de l'équipe de l'équipe cinématographique du tournage? Parce que lorsque vous avez dit si tout le monde est d'accord, c'est qui tout le monde?
Sur le choix des décors, en tout cas, généralement il y a, on va dire, 4 personnes qui sont un peu décisionnaires. Le réalisateur ou la réalisatrice, bien évidemment, en premier. C'est quand même le capitaine du bateau, quoi. Mais après, il y a le chef-op ou la chef-opératrice qui a son mot à dire, le ou la chef d'éco, et le ou la première assistante réal, et après bien évidemment le directeur de prod qui a aussi sur l'aspect financier, il a quand même c'est un peu les 4 interlocuteurs principaux avec qui d'ailleurs sont là généralement quand on fait ce qu'on appelle les repérages artistiques. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai envoyé mes propositions de décor sur photo, cette équipe-là, ces quatre personnes-là, généralement, viennent faire un premier tour des choses qu'ils ont préférées sur photo pour les choisir et commencer à négocier avec les propriétaires. Voilà, mais c'est au minimum ces quatre personnes-là.
À suivre dans Les Invisibles du cinéma numéro 3 sur Canal B, Laura Bucher, décoratrice, qui nous dit si on travaille toujours avec la même équipe.
Moi, je travaille pas tout le temps avec la même équipe puisque j'avais pas envie de m'enfermer trop dans cet esprit de famille de cinéma. J'ai travaillé peut-être avec 10 chefs décorateurs différents. Et comment on trouve le travail ? C'est beaucoup de réseaux. Il faut beaucoup parler aux gens. Il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Moi, j'ai la chance de pas avoir cherché trop de travail depuis que j'ai commencé. Mais avec les relations que je me suis faites au fur et à mesure des tournages, j'ai développé des amitiés et du coup je sais quand il y a un projet qui démarre et si je peux avoir un poste dessus ou pas, donc je sais qui contacter si jamais j'ai envie de travailler sur un projet spécifique.
Vous avez l'impression que vous avez le choix de vos tournages ?
Je suis très chanceuse, oui, je commence à avoir un peu le choix. Donc je suis très heureuse, mais c'est pas le cas tout le temps. Il y a des phases. Je sais que ça peut retomber et être un peu plus compliqué à l'avenir, mais pour l'instant, je touche du bois, je commence à avoir le choix de ce que je fais. Ouais.
Alors dites-moi, on a parlé tout à l'heure aussi, hors antenne, j'allais dire, des tournages pour les plateformes, pour des tournages de long-métrage cinéma, éventuellement de la télé. Est-ce que c'est différent de travailler pour ces trois types de tournages ?
Alors oui, c'est différent, je veux dire un truc très terre à terre, mais c'est différent parce que c'est pas du tout les mêmes budgets. De ça découle que ça sera pas du tout les mêmes équipes, puisque évidemment ce qui coûte le plus cher dans le budget de l'équipe déco, c'est la masse salariale. Donc en enlevant des postes, on réduit le budget et du coup moins on a d'argent, moins on a de personnes dans l'équipe déco. Oui, c'est différent. Sinon, c'est pas très différent dans la façon de faire, dans le processus de création. C'est pas très différent, c'est surtout les budgets et les décisions de production.
Alors, est-ce que vous êtes sur le tournage ou bien est-ce qu'une fois que vous avez fait les décors, bon ben hop, vous disparaissez ?
Alors, moi je déteste être sur le plateau. Donc moi, une fois que j'ai fait les décors, j'essaye de disparaître. Mais oui, on est là à la livraison du décor. Donc le premier jour de tournage sur un décor, l'équipe déco est là. Si jamais il faut changer des choses, bouger des choses, s'il y a des accessoires qui ne correspondent pas à ce que veut le réalisateur, il y a toujours des petites choses qui bougent au dernier moment. Donc l'équipe déco est là à la livraison. On ne reste pas forcément toute la journée sur le plateau, sauf si il y a des changements de décor en pleine journée, des changements d'organisation, des changements d'espace dans la journée. Là, on peut laisser quelques-uns des membres de l'équipe. Et sinon, tous les jours, le régisseur d'extérieur vient sur le décor normalement, parce que c'est lui qui est en lien avec l'accessoiriste plateau, qui lui reste sur le plateau tout le temps.
Alors, il y a des films qui utilisent plusieurs lieux, enfin, je pense même souvent, non ?
Ah oui, bien sûr. Oh, bah, bien sûr, quasiment tout le temps. On n'est jamais, sauf si c'est un huis clos, mais on n'est jamais en décor unique.
Qu'est-ce qu'un décorateur peut bouger dehors ?
Qu'est-ce qu'on peut bouger dehors ? Souvent, c'est des choses un petit peu ténues, mais qui nous restent notre travail, qui sont aussi des petits éléments un peu auxquels il faut faire attention au niveau de la législation. Par exemple, on n'a pas le droit, si on parle d'un immeuble en particulier, on n'a pas forcément le droit de voir le numéro de l'immeuble ni le nom de la rue. Donc souvent, on change ces panneaux-là. Ça nous arrive de changer, de mettre des affiches publicitaires dans des abribus parce qu'on n'a pas le droit de voir certaines marques. On peut changer, si c'est un film d'époque, on peut changer les poubelles, les boîtes aux lettres, le mobilier, les feux de circulation. Oui, on intervient en extérieur. Le premier film dont j'ai envie de parler, qui m'a quand même beaucoup marqué puisque c'est mon premier film sur lequel j'ai travaillé en tant que stagiaire décoration, c'est Petit Paysan, Swan Harlow, qui est très sympathique. Ça a été un film vraiment marquant pour moi puisque déjà c'était mon premier film. Et puis on tournait chez les parents d'Hubert Charuel, qui est donc le réalisateur du film. Donc il y avait une ambiance vraiment bienveillante sur ce film. Toute l'équipe se connaissait. C'était le premier film d'Hubert. C'était le premier film de ma chef décoratrice en tant que chef. Donc il y avait plein de premières fois. C'était très émouvant, il y avait les parents d'Hubert qui étaient là, qui nous surveillaient, il y avait ses grands-parents qui regardaient aussi ce qu'on faisait, et comme on parlait aussi d'eux, de ce film, c'était vraiment touchant d'être avec eux tous les jours. Et puis j'ai découvert la hiérarchie, la construction, tous ces éléments de cinéma avec lesquels je vis maintenant, mais c'est jamais les mêmes films. C'est vraiment mon tournage préféré. J'étais avec une équipe de décoration vraiment hyper chouette, avec qui j'ai gardé contact. On était peu nombreux à la déco, puisqu'on était 7. Donc rien à voir avec le film que j'avais juste après où on était 80. Et non, c'était vraiment une super ambiance et je pense qu'on a fait... Bon, y aurait des choses à revoir. Clémence, qui est la chef décoratrice, en parle régulièrement. Elle n'aurait pas forcément fait les choses de la même façon maintenant. Mais je pense que c'est plutôt... on a plutôt réussi ce qu'on avait à faire. Ouais. Le décor, pour le coup, on l'a oublié. On a fait attention à l'histoire... au jeu de Swan et c'était super. J'ai adoré ce film. Après, je peux parler du coup de ce film d'époque qui était une énorme usine à gaz qui a pour le coup c'était un des plus gros budgets, il me semble, du film français en 2017.
C'est quoi son titre ?
Un peuple et son roi. Mais ça n'a pas du tout marché.
Ah oui, non, c'est pas très... bien, moi non plus.
C'est très décevant, mais comme quoi le budget ne fait pas le succès du film. Et ce film-là, j'ai beaucoup appris aussi, puisque là, j'ai vu tous les rouages, vraiment une équipe très, très hiérarchisée pour le coup. C'était un chef d'éco qui avait énormément d'expérience, qui, je pense, a arrêté de travailler depuis, mais donc j'ai appris autre chose. En fait, c'est ça qui est hyper chouette dans ce métier-là, c'est que on fait jamais deux fois la même chose. Les projets, les scénarios sont tous différents, les réalisateurs, réalisatrices sont tous différents, les lieux sont tous différents, on travaille sur des époques différentes, donc on peut pas, tout est nouveau, on peut jamais s'ennuyer.
Et pour terminer ce troisième épisode des Invisibles du cinéma, on entendra Sarah Turoche, monteuse, qui nous dit quelle est la différence entre le montage image et le montage son.
La différence, c'est qu'il y a un métier qui s'appelle être le montage son, qui intervient une fois que le film est monté, et où le monteur son va monter des ambiances, des effets, va nettoyer les paroles, va nettoyer ce qu'on appelle les directs, c'est-à-dire que le son qui a été enregistré pendant le tournage. Mais nous, au montage, on travaille évidemment avec le son. Par exemple, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de fausses synchro en fiction. C'est-à-dire qu'on prend la phrase d'une prise qu'on met sur une autre image. Et donc le comédien qui disait la même chose, on a l'impression qu'il est synchrone, sauf qu'en fait on a pris le son d'une autre prise. Ça c'est quelque chose qu'on fait de manière... qu'on fait beaucoup. Parce que parfois, le comédien est meilleur au son sur une prise, mais le cadre ou l'image est meilleur sur une autre prise. Et comme on veut les deux, évidemment, on s'arrange pour avoir les deux. L'autre chose que je voulais dire par rapport au son, c'est que nous, dans notre responsabilité de chef monteur, on a la responsabilité de la musique. Alors, donc on travaille vraiment en étroite collaboration avec les musiciens. Là, il y a aussi plein de cas de figure. Il y a des musiciens qui travaillent en amont, qui travaillent dès le tournage. Il y en a qui attendent qu'il y ait un premier montage. Mais en tout cas, dans les deux cas, nous, on travaille beaucoup avec eux, puisqu'on c'est de notre responsabilité de monter la musique du film, même si après, elle peut être réenregistrée et parfois retravaillée.
Alors moi, j'ai un reproche à faire en tant que spectatrice, c'est que je trouve que, mais vraiment très souvent, il y a trop de musique.
Oui, alors après, ça dépend des projets. C'est vrai que c'est un petit peu un défaut. Alors, il faut savoir qu'en général, les musiciens vont me détester, mais eux, ils en entendent partout, quand des fois, nous, on en entend beaucoup moins. Et qu'il y a, en tout cas pour ce qui est télé, souvent une injonction des chaînes qui ont très peur du silence, qui est quelque chose qui est redoutable pour eux à la télévision. Donc, il y en a souvent trop. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que la musique a beaucoup plus de force que le reste, que l'image, et elle transforme complètement une image. Donc nous, il faut vraiment, on est obligé de travailler avec la musique. En général, moi, sur un premier montage, je refuse de monter la musique, sauf si c'est vraiment nécessaire, parce que c'est une scène musicale. Mais je me dis que si le film tient sans musique, il ne pourra que gagner avec. Et après, évidemment, là, c'est un travail de va-et-vient avec le musicien, où moi, je peux adapter ma séquence et mon montage à sa musique, ou inversement. Ça, ça marche dans les deux sens. Faut quand même pas oublier que le montage, c'est un travail d'équipe. Ça veut dire que même si on est, nous, plutôt seuls dans la salle de montage, on travaille avec un assistant qui nous aide beaucoup, qui regarde aussi ce qu'on fait, qui apporte un regard, et on travaille avec un monteur son, avec l'étalonneur, avec le musicien. Enfin, on travaille quand même beaucoup de monde, beaucoup avec les effets spéciaux, et on est vraiment un collaborateur du réalisateur, donc l'idée, c'est de l'accompagner au mieux avec les connaissances qu'on a. Et si il nous fait confiance, ce qui est en général le cas, on est là pour lui apporter des nouvelles idées, pour lui apporter une sensibilité, un regard, et chercher ensemble ce qui est le mieux pour le film.
C'était Sarah Turoche, monteuse, pour une troisième fois dans Les Invisibles du cinéma, qui reviendront encore une fois, une quatrième et dernière fois, dans l'émission de Boule Vanille. Le thème musical de cet épisode était dû à un titre de Lalo Schifrin, Jukebox Source, extrait de la BO du film Man on a Swing. De Boule Vanille se poursuit avec ses histoires de la Northern Soul, troisième partie, où je vous dis tout sur ce qui est bien plus qu'un genre musical qui faisait danser tous les week-ends dans des boîtes de nuit du nord de l'Angleterre. Pas mal de jeunes gens, de jeunes filles sur des musiques soul complètement obscures et venant des États-Unis du début des années 60 jusqu'à l'époque contemporaine pratiquement où avaient lieu ces soirées-là, c'est-à-dire dans les années 1970. On va entendre dans un instant le tube absolu de ce genre-là, la Northern Soul, le titre de Frank Wilson sorti en 1965, Do I Love You and Did I Do. C'était pour le label Soul, une sous-division du label Motown. Et dans cette troisième partie d'histoire de la Northern Soul, je vous proposerai des versions originales et leurs reprises, ou les versions qui ont marché à fond dans des endroits tels que le Wigan Casino. On écoute donc Frank Wilson.
Nothing left now. want me to get down on my knees, beg you, baby, please, cry a million tears. Do you want me to call you on the phone, beg you to come home, think of all the years when I once lived in paradise, when the love light shone in your eyes. Oh, tell me what can I do when I feel lonely?
C'était Judy Street à l'instant avec le titre What, sorti en 1968 pour le micro-label Strider, qui n'a, à ma connaissance, sorti que ce single-là pour Judy Street, dans des versions ultérieures aussi un peu plus tard, parce que c'est l'une des spécificités de la Northern Soul que j'évoque pour vous dans The Boule Vanille depuis trois semaines maintenant. C'est que, en général, c'était des micro-labels qui voulaient tous sortir des tubes aussi forts que ceux de Motown, et ça marchait pas du tout. C'était à chaque fois des échecs, et c'est ça qui a séduit aussi les DJ anglais qui allaient s'abreuver dans des entrepôts aux États-Unis et qui allaient écumer tous ces stocks de disques qui avaient fait des flops entre, on va dire, 1966 et 1970. C'est vraiment la grosse période pendant laquelle les musiciens noirs américains ont fait des tubes, mais qui ne marchaient pas. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens, et évidemment, seuls les plus gros labels arrivaient à fonctionner comme il fallait. Vous entendiez donc à l'instant Judy Street et le morceau What, qui était une reprise en fait, puisqu'il avait été écrit par H.B. Barnum, producteur et compositeur et homme très important pour le label Capitol notamment. Et bien c'était Tina Mason qui a fait la version originale en 1967, très chouette aussi, un peu plus lente. On écoutait auparavant Ardeen Taylor, musicien canadien blanc et pourtant avec une voix très soul, qui sortait en 1967 l'immense There's a Ghost in My House pour le label VIP, là encore une sous-division pour le label Motown. Vous l'entendiez auparavant repris en 1980 par un groupe de Liverpool, les Yotes, qui feront trois albums, qui travailleront pour le label Radar Records, un label qui a sorti pas mal de disques pour Nick Lowe, pour Elvis Costello, et puis aussi parfois, étonnamment, quelques rééditions de singles américains, garage ou psyché, comme notamment des titres de 13th Floor Elevator. En tout cas, le morceau There's a Ghost in My House était aussi repris quelques années plus tard, en 1987, par The Fall, mais la version est un petit peu moins réussie, je trouve, un peu moins soul en tout cas, par Marquis Smith et sa bande. Auparavant, eh bien, c'était la reprise du titre Do I Love You in Did I Do, tube incroyable de la scène Northern Soul par Frank Wilson qu'on avait entendu tout à l'heure, et là c'était repris en 2016 par le groupe Mod Secret Affair. Très belle version pour un groupe qui reprenait quelques fois des morceaux soul de la Motown, de Smokey Robinson ou bien des Supremes depuis 1979, parce que oui, Secret Affair c'est un groupe Mod qui a traversé les époques, qui s'est inspiré de ce que faisait Les Who, et puis qui était un peu proche des Jam hein, en 1979, et puis qui a continué ses aventures et qui existe encore aujourd'hui. On termine la troisième partie d'Histoire de la Northern Soul avec Soft Cell, le groupe de Marc Almond qui avait déjà, bien sûr, vous le savez, repris le morceau de Gloria Jones, Tainted Love, qui était un morceau plutôt obscur lorsqu'il était sorti en 1965 et puis qui allait devenir immense grâce au DJ Northern Soul, ce qui n'échappera pas à l'attention de Marc Almond de Soft Cell, qui reprendra donc en 1981 le tube Tainted Love. Sur la face B d'ailleurs, c'est un morceau de la Motown qu'ils reprennent aussi. Et puis en 1982, ils retentent le coup, alors que la scène Northern Soul commence à un petit peu péricliter. Ils retentent le coup avec ce morceau qui va suivre, What, à l'origine, donc vous le savez, par H.B. Barnum, chanté par Tina Mason et repris en 1968 par Judy Street. Là, c'est la version de Soft Cell, beaucoup plus synthétique évidemment, et sortie en 1982 sur un single du label Some Bizarre.
Do you want me to get down on my knees? Beg you, baby, please cry a million tears. Call you on the phone, beg you to come home. Think of all the years when I once lived in paradise, when the love light shone in your eyes.
Oh baby,
what can I do when I still love you? What can I say when I still want you? What can I do? What can I say? You'll never know this way. Do you want me to fall? Around everywhere in town, do you want a clown? Why do you treat me mean and cruel, breaking every rule? Can I be your fool? We can make this our happy home, so come back.
Soft Cell en 1982 avec la reprise du titre What par Tina Mason et popularisée sur la scène Northern Soul par Judy Street. On reviendra une dernière fois sur ces histoires de la Northern Soul dans une émission prochaine de Boule Vanille. Et on termine l'émission aujourd'hui avec les morceaux de choix numéro 3. Ronan Chaplin a rencontré des mélomanes qui nous disent tout sur la chanson, le disque qui les a fait chavirer. Aujourd'hui, eh bien, c'est Rita qui nous parle de In the Death Car, extrait de la BO du film Arizona Dream, chanté par Iggy Pop. Et c'est comme ça que se termine de Boule Vanille aujourd'hui. On se retrouvera très vite sur Canal B. D'ici là, retrouvez playlist et réécoute sur canalb.fr. Ciao.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Porter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix. De choix.
De choix.
Morceau de choix. Iggy Pop. BO de Arizona Dreams. Dès les premières notes, je l'ai aimé.
il est rentré en moi.
A howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark.
Quand je l'ai réécouté, ça m'a toujours fait la même impression de comment, surtout la voix de Iggy Pop, cette sensualité, la façon dont il avait de chanter assez lentement, cette voix grave, et après surtout quand arrivent les chœurs, ces femmes qui chantent, je trouve ça c'est une explosion pour moi. Vraiment, ça me pénètre, ça me met en joie, ça me donne du dynamisme et voilà, j'adore ce morceau.
I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly.